L'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Bienvenue. C'est donc le jour J aux États-Unis. Plus de 200 millions d'Américains sont appelés à élire leur président. Alors qui d'Hillary Clinton ou de Donald Trump sortira vainqueur de ce scrutin qui s'annonce particulièrement serré avec une tendance favorable tout de même pour la candidate démocrate. En tout cas, pour Barack Obama, c'est l'heure du bilan. Je vous propose donc ce matin de retracer ensemble les années Obama. Que retiendrez-vous de son passage à la Maison-Blanche? Il y a 8 ans, sa victoire avait provoqué une euphorie mondiale. Rarement une élection aux États-Unis n'avait suscité autant d'espoir au-delà des frontières américaines. Et tenez-vous bien, Barack Obama est aujourd'hui plus populaire que jamais avec 56% d'opinions favorables, de quoi faire rêver de nombreux dirigeants à travers le monde. Alors avez-vous été convaincu, vous, par Barack Obama? Que restera-t-il de ces deux mandats? RFI vous donne la parole jusqu'à 10h, heure de Paris, 9h, temps universel. Vous nous rejoignez ici, 33 9 693 693 70 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Et pour répondre à vos questions sur les succès et les échecs d'Obama, notre invitée Marie-Cécile Nave, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, spécialiste des États-Unis, sociologue, politologue et chercheuse associée à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous avez d'ailleurs récemment publié un ouvrage aux éditions FIP, Trump, l'onde de choc populiste. Et on prendra le temps également ce matin, Marie-Cécile Nave, au regard des questions qui nous arrivent au standard, d'expliquer aux auditeurs le processus électoral américain qui est si complexe, si particulier. Un président qui est désigné au suffrage universel indirect après de nombreuses étapes avec un calendrier très très précis. Je le disais à l'instant, 56% des Américains qui se disent satisfaits du travail de Barack Obama. On prendra sûrement un peu de recul pour mesurer la place qu'il occupera dans les livres d'histoire. Mais comment expliquer déjà cette espérance que son élection avait suscité il y a 8 ans?
56%, je crois qu'il y a beaucoup de chefs d'État en fin de mandat qui s'en satisferaient de par le monde. Hein. C'est vraiment quand même un bon score. L'élection d'Obama en 2008, c'était un symbole énorme. Et je crois qu'il faut, au-delà peut-être du bilan dont on reparlera, mais les symboles sont performatifs. Hein, c'est-à-dire que avoir un noir à la Maison-Blanche qui a un discours très rassembleur, qui a un discours de main tendue aux puissances étrangères, qui veut rassembler son pays autour des valeurs d'humanisme et de tolérance, ça, c'est quand même important parce que ça produit des effets dans le réel, ça permet quand même de donner une dynamique positive.
Avec le recul, vous diriez que cet espoir était démesuré finalement?
Oui, les espoirs sur une personnalité seule pour changer la société, pour aller vers moins de racisme, notamment contre la communauté noire, plus de lutte contre les inégalités sociales, les inégalités de santé, les inégalités économiques. Il a pas pu faire tout ce qu'il avait prévu de faire, il a pas pu faire tout ce qu'on attendait de lui, mais c'est aussi parce que les Américains, et c'est humain bien sûr, parce que c'est très individualisé comme élection, l'élection présidentielle, font peser beaucoup d'espoir sur un homme, et cet homme, ou peut-être cette femme demain, ne peuvent pas tout faire, ils ne gouvernent pas tout seuls, et heureusement on a envie de dire, parce que dans les démocraties, on ne peut pas avoir un pouvoir incarné par une seule personne. Il y a aussi le Congrès et puis le poids très important des États fédérés aux États-Unis.
Effectivement, et le Congrès est très important pour les démocrates. D'ailleurs, l'élection la plus importante, c'est la bataille qui va se dérouler et se jouer aujourd'hui également au Sénat, puisqu'on rappelle que les Américains vont voter pour le renouvellement d'une partie du Congrès. On va tout de suite passer au standard. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de réactions. D'abord, on va prendre un lot de questions sur le processus électoral américain. Awa, vous êtes à Dakar. Bonjour.
Bonjour Juan.
Au Sénégal, on vous écoute.
Bonjour aux auditeurs de... Oui, je suis à Dakar. Bonjour aux auditeurs de RFI. Le mardi semble important dans la politique américaine. Il y a le Caucus Day, super mardi pour les primaires, et l'élection présidentielle a lieu un mardi. Donc ma question est, le mardi a-t-il une importance dans la vie politique américaine?
Alors, les Américains votent pour leur président effectivement un jour de semaine, c'est le mardi, et c'est toujours le mardi qui suit le premier lundi de novembre. C'est dû à quoi ?
Aucune idée. Alors là, vraiment, je ne sais pas. Ça doit être une tradition qui est instaurée depuis la mise en place du processus électoral, sans doute parce que ça s'expliquait au 19e siècle. Mais alors moi, là, je ne sais pas. Désolée.
Vous ne savez pas. Donc, vous bottez en touche. En tout cas, c'est vrai qu'effectivement, ça remonte à la fondation des États-Unis. J'ai vu que ça datait même de 1845, pour être précis. Autre question. Yves est avec nous. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux techniciens qui sont avec vous là-bas.
Merci évidemment de saluer nos amis techniciens. Vous avez des questions, vous êtes à Lubumbashi en République démocratique du Congo.
Oui. Alors plusieurs électeurs américains avaient déjà voté par vote anticipé. Comment fonctionnent les votes anticipés aux États-Unis? Et Trump a demandé de changer son vote, et cela est possible?
Alors effectivement, Donald Trump a demandé aux électeurs qui avaient déjà voté pour Hillary Clinton et qui exprimeraient des remords d'annuler leur vote et de voter à nouveau aujourd'hui. D'abord, sur le vote anticipé, on dit que 42% d'Américains ont déjà voté à l'heure actuelle.
Oui, c'est les chiffres qui circulent. C'est énorme, hein, parce que c'est beaucoup plus qu'en 2012, où on était à 30% du corps électoral qui avait voté avant le jour final de l'élection. C'est un indicateur intéressant, parce qu'il semblerait que, notamment dans certains États clés, dans certains swing states, la communauté hispanique se soit très fortement mobilisée, ce qui est une très bonne nouvelle pour Hillary Clinton. Le vote anticipé, c'est une procédure qui est autorisée dans une très grande partie des États américains, parce qu'aux États-Unis, il y a un système fédéral et puis il y a une grande liberté qui est laissée aux États fédérés. Hein, ça, c'est le compromis issu de la révolution de la fin du XVIIIe siècle. Et donc, dans une grande partie des États fédérés, il est possible de voter avant le 8 novembre, soit la totalité des États, soit une partie simplement des territoires des États, ça dépend des cas. Soit c'est parce que vous avez une bonne raison de ne pas pouvoir vous déplacer le 8 novembre, soit vous avez toute liberté que vous soyez libre le 8 novembre ou pas. C'est un vote qui peut s'effectuer par correspondance, par des bureaux de vote qui sont installés déjà dans les lieux habituels.
Et ça permet aussi de réaliser des sondages à la sortie des urnes. C'est comme ça qu'on sait qu'effectivement les Hispaniques se sont fortement mobilisés, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des électeurs afro-américains.
Oui, les électeurs afro-américains se sont moins mobilisés pour le early voting qu'en 2008 et 2012, mais en même temps, c'est difficile. Hillary Clinton passe après Obama et c'est difficile pour elle parce qu'il y avait une telle mobilisation des Afro-Américains en faveur d'Obama, surtout en 2008, mais en 2012 aussi, que passer après, forcément, la comparaison est rude. Ceci dit, dans les processus de vote anticipé, il y a toujours avantage aux démocrates parce qu'il y a une mobilisation plus forte, une organisation plus forte sur le terrain pour, par exemple, aller chercher les gens à la sortie de l'office. Donc l'équivalent de la messe chez les protestants, chez les noirs par exemple. Il y a une organisation qui est largement, qui est très efficace. Et cette année, on sait que la campagne de Clinton est beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus présente sur le terrain que celle de Trump, qui est une campagne largement amateur.
Marie-Cécile Nave, Donald Trump a demandé il y a quelques jours aux électeurs qui avaient déjà voté pour Hillary Clinton d'annuler leur vote, de voter à nouveau. C'est possible ?
Non.
Non ?
Bon, non.
Non, d'accord, non, mais ça aurait pu être possible, d'où la question de notre auditeur. Merci à vous Yves, bonne journée à Lubumbashi, 9h19 à Paris, vous nous appelez 33 9 693 693 70. Abdoul, vous êtes au Cameroun, bonjour.
Bonjour, c'est Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Merci. Dans la procédure électorale américaine, ce sont les grands électeurs qui votent en dernier. Mes questions sont les suivantes. Comment devient-on grand électeur? Et pourquoi certains États sont des États clés comme la Floride?
Alors, on va parler de la Floride dans un instant. Marie-Cécile Nave, ce sont les grands électeurs qui, finalement, vont voter pour un des deux candidats. Il faut rappeler que les grands électeurs sont affiliés forcément à l'un des candidats, hein.
Oui, les grands électeurs sont des cadres des deux partis, des élus locaux qui sont affiliés à un des deux candidats. Et donc,
Mais ils sont choisis, ils sont élus. Comment devient-on grand électeur ? C'était la question de notre auditeur.
Ça dépend. Il y a des gens qui sont élus localement. Il y a aussi des qui ont un mandat électif, je veux dire. Il y a aussi des cadres du parti qui peuvent qui sont élus effectivement dans chaque État. Et il n'y a jamais de surprise par rapport au fait de voter pour un grand électeur. Il va toujours reporter son vote sur...
Ils sont obligés de respecter le vote populaire.
Oui, oui. Alors, il peut y avoir parfois des petites incertitudes locales sur quand il y a un candidat indépendant, par exemple. Mmh. Mais bon, il n'y aura pas de surprise majeure. Il n'y aura pas de surprise du tout, même, pour ouais. cette élection.
On compte 538 grands électeurs pour être élu à la Maison-Blanche. Un candidat doit obtenir les voix d'au moins 270 d'entre eux. C'est bien ça.
Oui, c'est ça.
Bien. Concernant la Floride, qui intéresse particulièrement notre auditeur, état crucial, pourquoi ?
Alors, juste, les grands électeurs sont répartis en fonction de la population des États. Donc, celui qui en donne le plus, c'est la Californie, parce que c'est l'État le plus peuplé.
Avec 50-50 électeurs.
Voilà. Alors, la Floride, Barack Obama a dit cette semaine, si Hillary Clinton remporte la Floride, c'est gagné. Et bon, c'est effectivement, c'est assez juste comme raisonnement. Ça dépendra des autres swing states, mais c'est un État qui, effectivement, bascule soit du côté républicain, soit du côté démocrate. On se souvient que c'est en Floride que l'élection s'était jouée en 2000, mmh. avec un avènement complètement rocambolesque.
537 voix de différence,
oui, voilà.
entre les deux candidats en 2000, entre Bush et Al Gore. Ouais.
Entre Al Gore et George W. Bush. Alors, la Floride a cette particularité cette année qu'il y a un électorat masculin blanc extrêmement mobilisé en faveur de Trump. Mais il y a aussi un électorat hispanique des deux sexes extrêmement mobilisé en faveur de Clinton. Et c'est un électorat qui est assez jeune d'ailleurs, parce que voilà, c'est aussi un fait démographique important aux États-Unis, inéluctable. Il y a un rajeunissement de la population américaine qui est porté par le poids de plus en plus important en termes de démographie des minorités, et notamment de la minorité qui sera bientôt plus une minorité, d'ailleurs, hispanique. La Floride, c'est une terre d'immigration. Il y avait eu beaucoup de débats au moment des rapprochements avec Cuba. Et donc, ça va se jouer entre les hispaniques d'un côté et puis le vote masculin blanc de l'autre. Et pour l'instant, il semble y avoir un avantage à Clinton, sachant que près de la moitié de la population en Floride a déjà voté.
Ouais, j'entendais tout à l'heure l'un de nos envoyés spéciaux dire que après le vote anticipé, les démocrates auraient 80 000 voix d'avance sur les républicains en Floride.
Oui, ça serait quand même considérable si ce chiffre était vérifié. Il y a eu vraiment une mobilisation très forte des hispaniques dans tout le pays. C'est le cas aussi au Nevada. Et dans d'autres États encore. Et c'était un bon indicateur pour Clinton, certainement. Mais il faut voir jusqu'à demain, quand même, jusqu'à ce soir, pardon.
Oui.
Jusqu'au bout, il faut être quand même prudent dans cette campagne. On a eu droit à des rebondissements chaque semaine, donc il faut être prudent.
Il est 9h23 ici à Paris. Les premiers résultats sont attendus cette nuit vers 4h du matin. Nous prenons le temps, en tout cas sur l'antenne des RFI, de répondre à toutes vos questions. D'abord sur le processus électoral américain, puis ensuite sur le bilan, les succès, les échecs de Barack Obama. Souleymane, bonjour.
Oui, alors bonjour, Anne Gomez, à toute l'équipe.
Vous êtes à Bamako, au Mali. Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui. Ouais. Alors, Van Gomez, comment s'organise l'encadrement des comptes des campagnes présidentielles américaines ? Ça, j'ai cru comprendre que le budget Hillary Clinton est plus élevé que celui de Donald Trump, milliardaire.
Alors, l'argent, le nerf de la guerre électorale, on dit que cette campagne, on le dit à chaque fois, a été la plus chère de l'histoire américaine. Sans argent, on ne peut pas faire campagne aux États-Unis, c'est impossible. Qui finance la campagne ? D'où vient l'argent ?
Alors, on avait déjà battu un record aux élections de mi-mandat de novembre 2014 avec des dépenses de campagne qui s'élevaient à 4 milliards de dollars. Là, j'ai entendu Claude Guibal sur France Inter ou sur Twitter plutôt ce matin, qui parlait de 7 milliards de dollars de dépenses, en comptant tout, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la présidentielle, il y a aussi la campagne législative qui coûte énormément d'argent, parce qu'il y a un très fort enjeu pour les Républicains notamment.
Pour essayer de conserver le Congrès, évidemment.
Voilà, pour essayer de conserver le Congrès. Clinton aurait récolté environ 600 millions de dollars et Trump sera à 200 millions environ. C'est une question qui est souvent posée. Il ne faut pas confondre l'argent personnel des candidats, où là, Trump est bien plus riche que Clinton, je pense.
Sa fortune personnelle est estimée à plus de 4 milliards.
Oui, en comptant aussi le capital de ses entreprises. Donc, Mais il ne faut pas confondre la fortune personnelle, le capital personnel des candidats, et puis l'argent qui est récolté pour la campagne. Et Trump avait dit dès le départ qu'il allait financer sa campagne sur ses fonds propres, ce qui est évidemment impossible. D'ailleurs, ça n'a pas tenu très longtemps. Aux États-Unis, depuis une décision de la Cour suprême en 2010, il n'y a aucun plafond en termes de dons du côté des personnes morales en particulier. En France, c'est plafonné à 4 500 euros par personne morale. Aux États-Unis, il n'y a pas de plafond, ce qui fait que n'importe quelle entreprise ou même particulier peut donner ce qu'il veut. Et ça, cet argent-là, il est récolté par ce qu'on appelle les super PAC, c'est-à-dire les Political Action Committee, sorte de comité qui récolte l'argent des dons et qui est réparti ensuite par l'équipe de campagne en fonction des dépenses et notamment des publicités négatives. Et après, il y a une petite partie de l'argent des campagnes qui vient du parti lui-même.
Il y a une question que j'avais vue sur la page Facebook de l'émission. Un auditeur nous demandait, est-ce que les frais de campagne, comme en France, sont remboursés par l'État ou une partie des frais de campagne?
Non. Et ce qui coûte le plus cher, c'est les publicités négatives contre l'adversaire, de très loin. Et qui ciblent les gens en fonction de l'utilisation qu'on fait des big data de chaque individu qui est à la fois un électeur et un consommateur. Il y a des analyses très intéressantes sur la gestion des big data par chacun des deux partis. Et là encore, il y a un avantage aux démocrates sur le ciblage des populations auxquelles il faut adresser le plus de publicité positive et négative. C'est intéressant.
Autre question standard au 33 9 693 693 70. Yaya, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous nous appelez de Brazzaville, au Congo. On vous écoute.
Oui. Il y a des questions sur poser sur les élections aux États-Unis.
Oui.
J'apprécie les antennes des RFI. Il y a d'autres candidats à l'élection présidentielle en dehors de Hillary Clinton et Donald Trump. J'aimerais savoir pourquoi on n'entend jamais parler d'eux et quel impact sur les élections.
Alors, il n'y a pas que deux candidats au scrutin présidentiel américain. Certes, il y a Hillary Clinton et Donald Trump, mais il y en a deux autres.
Oui, il y a le libertarien Gary Johnson et l'écologiste Jill Stein, qui est un homme et une femme.
Qui étaient déjà candidats il y a 4 ans, hein, tous les deux.
Oui, et ils n'ont pas pu aller...
Bien loin. 1% des suffrages pour Gary Johnson, je crois.
Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a dans les estimations de vote entre Clinton et Trump des scores autour de entre 35 et 45%. Et donc, il y a encore quelques points de pourcentage qui correspondent à ces deux autres candidats. Jill Stein, c'est quelqu'un qui est en train de séduire une partie de la jeunesse très diplômée. C'est-à-dire qu'on a retrouvé, par exemple, dans l'électorat de Sanders, même si une grande partie de l'électorat de Sanders s'est reportée sur Clinton.
Sanders qui était candidat à l'investiture démocrate face à Hillary Clinton. Et c'est vrai que les anciens partisans de Sanders disent vouloir voter pour la candidate écologiste.
Oui, une petite partie quand même. La majorité se reportera sur Clinton. Et d'ailleurs, elle aura donné des gages, entre guillemets, gauchisant son programme. Johnson, c'est donc un membre du Parti libertarien, qui est un parti pas très connu en France et qui correspond aussi à une mouvance de la droite américaine dont on parle peu de ce côté-ci de l'Atlantique. Être libertarien, ça veut dire être pour les libertés d'entreprise, évidemment, contre la régulation de l'État dans le fonctionnement économique, contre la régulation écologique, par exemple, mais aussi pour les libertés individuelles. Et donc là, on diffère du parti républicain traditionnel, en tout cas de ses forces dominantes, dans le sens où ils sont pour l'accès à l'avortement, à la contraception, ils sont pour les droits des homosexuels, ils sont pour la liberté liberté totale de circulation des personnes.
En tout cas, ces deux candidats sont privés de débats télévisés. On ne les a pas vus. Vous nous direz juste après le journal pourquoi. Vous continuez à nous appeler 339 693 693 70 et nous parlerons évidemment des succès et des échecs d'Obama.
Priorité santé.